Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h, de 16h à 17h, une grande balade rafraîchissante en France, et puis de 17h à 18h, nous partons au bout du monde, et tout à l'heure, nous irons au pays des Incas et du Machu Picchu, nous irons au Pérou. Pour l'instant, nous sommes donc en Drôme et en Ardèche, ou dans la Drôme et en Ardèche, enfin, comme vous voulez. Nathalie Hellal, vous allez nous raconter l'histoire d'une construction d'un monument assez extraordinaire.
Oui, un monument unique, en fait le seul exemple en architecture de l'art naïf, disait de lui André Malraux. Alors il s'agit du palais idéal du facteur cheval.
Ah, oui.
C'est une histoire, Philippe, vraiment fantastique et inspirante. C'est l'histoire aussi d'un homme ordinaire. On est au printemps 1879 à Haute-Rive, dans la Drôme. Ouais. Et Ferdinand Cheval, qui est un fils de paysan, un ancien apprenti boulanger qui est devenu facteur, va trébucher sur une pierre, sur sa route, et ça va littéralement changer sa vie.
Ah ouais ?
Oui, parce que la forme de la pierre est si extraordinaire qu'il se dit, puisque la nature veut faire la sculpture, eh bien moi, je ferai la maçonnerie et l'architecture. Il va débuter dans son potager la construction d'un bâtiment qui va devenir célèbre dans le monde entier.
Et qu'il fera absolument tout seul.
Ah, absolument tout seul, sans aucune aide. Parce qu'au cours de ses tournées, il fait quand même 32 km à pied chaque jour. C'est-à-dire 200 000 km en tout sans quitter la Drôme. C'est ce qu'il a parcouru. Il distribue son courrier et il prend l'habitude de ramasser des cailloux. C'est un petit peu le petit poussé à l'envers. Et il va s'en servir pour édifier son palais la nuit, dans son jardin, avec ses pierres.
Ah, la nuit, en plus de son travail.
Oui, bien sûr, en plus de son travail. Et son inspiration, c'est quoi ? Les cartes postales, les gravures de magazines de l'époque. C'est vraiment, il va bâtir une œuvre, un symbole de fraternité où toutes les cultures vont se mélanger. Il y a plein de détails, toute une faune, avec des animaux que le facteur n'a découvert qu'à travers ses images de cartes postales et de magazines. Plein de mythologies qui se croisent. On retrouve dans son palais autant un temple hindou qu'une mosquée, que des chalets suisses, que des châteaux forts. C'est incroyable.
C'est le palais de son imaginaire, de son imagination. Ça lui a pris combien de temps ?
33 ans pour achever cet édifice d'une longueur de 26 mètres, d'une largeur de 12 mètres, d'une hauteur de 12 mètres aussi. Mais il ne va pas s'arrêter là parce que à l'âge de 78 ans, il va encore construire son tombeau pendant 8 années supplémentaires. Et c'est là qu'il repose aujourd'hui. En 1969, le site a été classé par André Malraux, au monument historique contre l'avis de tous les experts. Les gens étaient contre. On s'est moqué de lui toute sa vie, hein, ça il faut bien vous le dire. Mais il a été une source d'inspiration pour plein d'autres grands artistes. Picasso, Dali, Breton ou même la cinéaste Agnès Varda.
Et ça attire des milliers et des milliers de visiteurs.
C'est une histoire magnifique, je trouve.
C'est une histoire magnifique. Et il a été souvent, je dirais, copié, mais jamais égalé.
Jamais.
Jamais. On dit souvent dans un hôtel, tiens, il y a le facteur cheval qui... Mais non, c'est jamais au niveau.
C'est un original avec un univers merveilleux.
Ouais. Si on parle un petit peu de l'Ardèche, de quoi a vécu beaucoup l'Ardèche ?
Alors curieusement, vous l'ignorez peut-être, mais elle est à vos pieds l'Ardèche.
Ah bon ?
Ou plutôt sous vos pieds, c'est la Chaussure absolument, à Romans-sur-Isère, dans la Drôme plutôt. À l'origine, c'est un lieu parfait pour le tannage qui va débuter au 15e siècle parce qu'il y a l'eau très claire et très propre de l'Isère et des nombreux canaux. Donc on va fabriquer là-bas des galoches. Vous savez, ce sont des chaussures rustiques avec une semelle de bois, et puis on va les teindre avec les écorces de châtaignier. Vous savez, c'est un arbre très très présent là-bas.
D'accord. Mais comment on passe à l'industrie ?
Parce que le chemin de fer arrive, seconde moitié du 19e siècle. Donc il y a l'industrialisation, la mécanisation pour une production de masse. On va exporter aussi les produits fabriqués. Et ça devient une mono-industrie dans les années 30. Et notamment grâce à un homme qui s'appelait Charles Jourdan. Il a commencé avec une toute petite fabrique en 1917.
Ça a commencé,
là-bas. L'apogée de la chaussure de Romans-sur-Isère, c'est entre 1945 et 1970, il y a plus de 5000 personnes qui travaillent dans ce domaine à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. C'est énorme. Malheureusement, ça va changer dans les années 70 à cause de la délocalisation, de l'internationalisation, de la concurrence des pays avec un faible coût de main-d'œuvre, évidemment. Mais il y a eu quand même des marques emblématiques, par exemple Stéphane Kélian, Robert Clergery et j'en passe, qui sont nés là-bas. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, les ateliers redémarrent.
Ouais.
C'est un petit marché, marché de niche. Innovation, créativité sont au rendez-vous.
Alors, la chaussure, on a vu. Les autres fiertés de l'Ardèche, c'est
Le papier.
Le papier.
Et puis la montgolfière. Oui. Et vous allez voir que c'est lié. Il y a une famille d'industriels, les montgolfiers, originaires d'Annonay. Au XVIIIe siècle, ils réussissent à perfectionner la pâte à papier. Donc c'est la naissance du premier quotidien de France au même moment. Et vers 1780, eh bien, les autorités du Languedoc vont choisir les frères montgolfiers pour développer la production de papier blanc.
Mais quel rapport avec la montgolfière ?
Eh bien, il y a une légende. Et la légende dit que Joseph, l'un des deux frères, a découvert le principe du ballon à air chaud un soir en séchant sa chemise. En effet, il la tenait par le col au-dessus du feu, puis il observe que la chemise gonfle, et alors il décide de tenter l'expérience avec un morceau de soie qui s'envole. Il en parle à son frère Jacques-Étienne, qui est un petit peu le scientifique de la famille, et ils vont chercher un moyen pour l'homme de voler dans les airs. C'est le grand rêve après le mythe d'Icare, bien évidemment. Donc les deux frères vont mener leur première expérience d'envergure le 14 décembre 1782 à Vidalon. Ils lancent leur premier ballon constitué d'une toile en papier qui est fabriquée grâce au savoir-faire des ouvriers de la papeterie locale.
Une toile en papier ?
Absolument. Et c'est la première expérience d'aérostat. Ils vont faire ensuite une démonstration un an plus tard à Paris devant le roi Louis XVI. Et c'est un vrai succès.
C'est dingue, une toile en papier, mais c'était super dangereux, ça pouvait prendre feu.
Elle était évidemment fabriquée spécialement, hein. C'était pas un papier ordinaire, évidemment. Et puis ça n'a pas volé très haut ni très loin, mais c'est la première expérience connue.
Et ils ont arrêté le papier ?
Non ! Alors pour la petite histoire, tout le monde, vous connaissez certainement les feuilles à dessin, les feuilles de papier calque de la marque Canson. Eh bien, ça vient de là, parce qu'un certain Canson est rentré dans la famille à la suite d'un héritage, et ils ont fait, au début du 19e siècle, des tas d'innovations avec des brevets comme le papier calque, le papier Canson coloré, etc., etc. Et même un brevet de papier photo, spécial pour la photo en 1865. Et depuis, quand on dessine ou que nos enfants dessinent sur du papier Canson, on sait à qui on le doit et on sait que ça vient de l'Ardèche.
Mais ben, c'est dingue, on en apprend des choses. Ouais. Hein. Oui. Mais on n'a pas le temps de tout noter, ça fait beaucoup de choses. Merci beaucoup Nathalie. Là tout de suite, dans quelques instants, on va partir côté cuisine, côté saveur, avec Emmanuel Jarry, les saveurs de la Drôme et de l'Ardèche.